Rendez-vous pour des enregistrements en Seine-Saint-Denis aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois au Conservatoire à 18h30 et demain soir à Bondy à la salle André Malraux à 20h30. À très bientôt.
France Inter, partenaire de l'exposition Dans le sillage des requins à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Plongez dans l'univers fascinant des requins, de leurs cousines raies et chimères. Découvrez poissons vivants, naturalisés et fossiles. Une exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle. À retrouver dans le programme de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, c'est Thierry de Nantes et j'appelle parce que je viens de recevoir une lettre de remerciement de la raffinerie de Donges, Total. Je fais partie des gens, je pense très nombreux, qui ont envoyé un peu d'argent là-bas pour les soutenir durant la grève. Et donc voilà, la lettre commence par « Chers camarades » et je trouve que c'est chouette, même si je ne les connais pas. Ça m'a permis d'ensoleiller un peu ma journée. Au revoir.
80 000 fois le SMIG. Enfin, à peu près, quoi. J'ai fait un calcul rapide. 80 000 fois le SMIG. C'est-à-dire qu'une seconde du PDG de Renault-Nissan vaut 80 000 secondes d'un SMIGard. C'est quand même pas mal, hein. Alors, qu'est-ce que vous attendez tous pour faire PDG de Renault-Nissan ? Au lieu de rester au chômage comme ça, ou au SMIG à faire manœuvre, hein ? Faites-vous embaucher comme PDG ? Ça rapporte un peu plus, quand même. C'est vrai, quoi. Voilà, je m'appelle Jean Do, je suis tourneur sur bois, un bien joli métier en Ardèche. Un bien joli département.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Alors j'appelle parce que demain, nous organisons à Paris une grande riposte contre l'agression publicitaire dans le métro, et ailleurs d'ailleurs. Cette action s'appelle « Le métro est à nous », pour rappeler à la RATP et à sa régie publicitaire Métrobus, qui nous impose en ce moment de nouvelles affiches, plutôt des écrans vidéo publicitaires gigantesques, très perturbants et qui consomment chacun autant d'électricité que 3 familles françaises en moyenne. Donc pour leur rappeler que finalement, le métro, il nous appartient. Nous le payons avec nos impôts, nous le payons avec notre argent en titre de transport et nous le payons avec notre travail, avec le versement transport des entreprises. Donc, à la gare de Lyon, dans la station de RER sur les quais, entre les deux quais de la ligne A du RER, nous nous retrouverons à partir de 4h, ce mercredi 15 décembre. Tous les AMG sont invités à venir nous rejoindre. Pour cette grande fiesta, on va mettre en scène un Père Noël qui sera maltraité par des publicitaires. On va faire de l'affichage sur les écrans vidéo et sur d'autres affiches publicitaires. On va distribuer des dépliants, signer des pétitions, etc. Ça va être drôle, ça va être sympa. Voilà, réjouissons-nous. Maintenant, la résistance s'organise contre ce qui rapporte à peine 2% des recettes de la RATP, c'est-à-dire, j'ai nommé, la publicité.
C'est Sandra de Montpellier. Je vous appelle pour réagir aux propos de Marine Le Pen. Bon, je suis musulmane. Je suis ni choquée ni touchée par ce qu'elle vient de dire. C'est juste pitoyable. Elle est pitoyable. Elle cherche des provocations. C'est vraiment débile, quoi. Donc, il faut arrêter. Et puis, on en a marre, quoi, nous, les musulmans. À chaque fois, vous parlez. Bon, basta, quoi. C'est bon, hein. Bah, bravo, Daniel. Hein. Continuez ce que vous faites.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Dallès. Le Café Repère de décembre aura lieu ce mercredi 15 à 19h au lieu habituel, le Vintage Bike Café, route du Pont de Grabieux, à Alès. À ce soir donc.
Salut Daniel, voilà, je voulais savoir comment tu fais, en fait, où tu les trouves, tes journalistes, parce que Julien Brigot là est extraordinaire, quoi. Et ils le sont tous, quoi, que ce soit Pascal, François, Antoine. Moi, je suis complètement fan. Il a encore un style différent et encore une manière d'aborder les reportages encore personnels, comme ils l'ont tous, quoi. Toujours, par contre, si corrosifs les uns que les autres, c'est excellent. Un chouette journaliste, absolument parfait, je trouve. C'est Fred de Genève.
Eh ben merci, Fred de Genève. Merci pour ces messages, chers AMG. On continue aujourd'hui. On va commencer avec cette réflexion du grand roi belge Léopold II qui s'adressait à un reporter américain au sujet, bien sûr, de ce qui nous intéresse aujourd'hui encore, c'est-à-dire le Congo. Et le grand roi Léopold disait à ce reporter américain: quand on traite avec une race composée de cannibales depuis des milliers d'années, il est nécessaire d'utiliser des méthodes qui secoueront au mieux leur paresse et leur feront comprendre l'aspect sain du travail. Fin de citation. C'est une des innombrables citations de Léopold II qui fut le père de la colonisation de ce pays dans lequel nous sommes, mais qui est aussi le père de la Belgique et le père de Bruxelles. On fera un tour bientôt à Bruxelles, on va faire le tour du Bruxelles de Léopold II, ce prodigieux assassin que fut Léopold II, honoré et honorable s'il en fut et s'il en est dans ce petit pays voisin. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, ou alors c'est un sujet par allusion. Aujourd'hui, on continue dans le nord Kivu, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo, dans cette région particulièrement douloureuse où il y a eu ces successions de massacres, de guerres, de déplacements de populations, de toutes sortes d'horreurs qui, et ça ne rentre toujours pas, il n'y a rien à faire, dans les consciences, ni dans les imaginaires. C'est cette guerre, la grande guerre des Grands Lacs, qui, entre 1998 et 2003, a fait entre 4 et 5 millions de morts. De morts à cause des guerres, de morts à cause de la famine, les épidémies, etc. Et dans cette région, il y a un enjeu capital qui est les ressources naturelles, le fameux scandale géologique que constitue le Congo et qui se concentre dans cette région notamment avec ces fameux minerais dont nous avons parlé hier et les jours précédents déjà, qui sont la cassitérite et qui sont surtout ce satané coltan, c'est-à-dire ce minerai présent dans nos portables, dans nos consoles de jeux, dans nos ordinateurs et aussi dans l'armement, et qui est très très demandé aujourd'hui, et ce qui entraîne beaucoup de souffrance. On va voir comment la richesse naturelle est une malédiction, comment ce pays si riche de ces richesses naturelles connaît autant de souffrances depuis aussi longtemps et depuis le grand roi Léopold qui avait colonisé ce pays en faisant sa propriété privée pour extraire l'ivoire et pour extraire l'EVA, le caoutchouc, les pneumatiques. Et à chaque fois, ça a été des innovations merveilleuses. Le pneumatique, génial. L'utilisation de l'ivoire, formidable. Combien de pianos avec des touches en ivoire, formidable. Comme aujourd'hui, ce que j'ai cité, toutes ces nouvelles technologies high-tech absolument formidables. Mais la contrepartie, eh bien, très souvent, c'est une contrepartie sanglante, très sanglante et très douloureuse. Et la question est, où est le lien entre tout cela? Comment montrer le lien entre tout cela? Tout est fait pour le faire disparaître, pour dire mais il n'y a aucun rapport. Eh bien, s'il y a un rapport, et on va essayer de le montrer dans cette émission du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse IGC au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour tous les AMG, ici Jean-Paul de Mulhouse. Venez nombreux à Mulhouse le vendredi 17 décembre au cinéma Bel Air à 20h45 pour y retrouver Pierre Carl dans son dernier film, Fin de concession. Pierre Carl s'y interroge sur la privatisation de la première chaîne de télévision française, mais l'enquête ne se déroule pas comme prévu. Les vieux dinosaures et les jeunes gardiens du PAF savent désormais comment s'y prendre avec le critique des médias. Pour retrouver son esprit de combat, Carl bat le rappel de ses amis et change de méthode. Dorénavant, fini les concessions. Un débat avec Attac est prévu après le film, à Mulhouse, au cinéma Bel Air, le vendredi 17, à 20h45. Au revoir.
Salut à tous. Alors voilà, nous sommes en route pour manifester à Aix-en-Provence, pour montrer notre désaccord non violent face à l'adoption prochaine de la loi LOPPSI 2 dont personne ne parle et qui pourtant nous concerne tous. Cette loi englobe des sujets démagogiques et totalitaires, mettant dans le même panier les cyberpédophiles et les partisans que nous sommes de la sobriété heureuse. Vivre en yourte ou en cabane, dans le respect de l'humain et de l'environnement, n'est pas un crime, mais une alternative. Merci à tous.
On y va ?
Ok, on va voir un peu.
Allez, c'est reparti. On va y aller doucement, pôle et pôle. C'est marrant parce qu'il y a mon téléphone portable qui arrête pas de faire des interférences avec le microphone. Comme s'il reconnaissait là d'où il vient. On s'approche de la mine de coltan et il fait bip bip alors qu'il n'y a bien entendu aucun réseau. C'est le retour aux sources pour mon vieux Motorola. On arrive sur la mine, qui est en fait un pan de colline qui a été...
Une carrière. C'est une vaste carrière en forme de cirque. Rouge, c'est beau d'ailleurs, rouge-rose, avec tout ce vert et tous ces champs verts. Il n'y a pas de creuseurs du tout,
si,
sauf
si,
peut-être...
Si, justement, ils sont en train d'étaler, là. Voilà. On les a vus d'étaler juste derrière, dès qu'ils nous ont vus arriver.
Bah, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une affaire de survie. D'habitude, il y a combien de creuseurs qui sont là en train de travailler à cette heure-là?
Bon, comme on a dit, combien on a un problème, mais on a un problème avec les airs. Ba journée. Ba yinaza kupakia journée banaenda tunaza kwata mu mamiri. Ata 1500. Jo carrière tunafatana vile mifereji iko tuzapangana kutana tunafika mamiri, mamiri 200.
Ici si tu vois cette mine en temps normal, on peut avoir facilement 3000 et 1200. Tu vois c'est il y a ceux-là qui se mettent au niveau de là, en haut là-bas oui.
En haut, oui. Sur la partie verte.
La partie verte
sur la terre en haut.
Oui.
On a choka mweupe.
Vous voyez la chaux blanche?
Ouais.
Kisha choka mtosho mchafu tunafika kuchoka.
En fait, c'est justement les gens des sols dans lesquels on cherche le minerai. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'il y a comme sol rouge et, et noir et jusqu'à ce qu'on puisse atteindre ce sol
blanc.
Et c'est dans ce sol-là qu'on cherche...
C'est la veine où il y a du minerai.
Exactement.
Alors là, qu'est-ce que tu as? Tu as cassitérite?
Ton ma carrière cassitérite. Donc, nous sommes couchés à Yuru, nous avons cassitérite.
Il y a tous des genres de minerais ici. Hein. La première couche peut être cassitérite, tandis que la deuxième couche, la couche d'en bas, c'est du coltan.
Et ici, plus personne ne travaille, ou presque. Ils sont sauvés en vitesse.
Là, il y en a un petit dernier qui n'a pas fait attention. Peut-être on le voit avec une pelle à la main.
Oui.
On peut avancer.
C'est glissant. Hein. C'est très glissant.
Là, on entend des you-you comme des you-you. C'est probablement les mineurs qui se préviennent entre eux.
Ils se sentent en insécurité. C'est pour ça que quand ils nous ont vus, ils ont fui. Certainement que aussi quand il y a la police qui vient ou les autorités, ça doit être la même chose.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vantil, Congo, Kivu, Katanga, ce merveilleux gâteau africain.
Du coltan, regarde, non.
Voilà. Ça, c'est du coltan. Voilà, c'est...
Et tu n'es peut-être... Tu n'es pas un peu de moto,
tu n'es pas un peu de
moto, tu n'es pas un peu de moto. Ton jeu, c'est pas le thé.
Si, c'est le coltan, voilà.
C'est étonnant, hein. Et ça, c'est quoi?
Cassitérite. Dont on fait l'étain, dont on fait les soudures pour tous les appareils électroniques, le téléphone.
Tu peux amener ça, tu auras des problèmes dans l'avion. Hein.
C'est vrai? On va essayer.
Les services de sécurité. Bazinga disait que c'est ici, on nettoie la castérite, ce petit bassin d'eau. On place un morceau de tôle. Et c'est sur ce morceau de tôle qu'on nettoie et pour séparer le coltan
des scories.
Oui.
Les scories. Là, on voit le village au-dessus, là. Les gens sont en train de descendre. Bon, c'est un peu par curiosité pour nous voir. Mais ça fait quand même beaucoup de monde qui travaille ici. Hein. C'est pas seulement le village où on est arrivé. Enfin, une petite bourgade où on est arrivé. C'est beaucoup de monde. Si ça dure encore comme ça, la situation, qu'est-ce que vous allez faire?
On est na wengine ni kuwana kutana mnyumba na kuwia ndani kusudi pesa zako zote wazipole wazibebe.
Nous aurons beaucoup de difficultés ici. Beaucoup de gens vont se livrer beaucoup au vol.
Na walimaji na watalima vienye watalima
dans les champs, même dans les maisons, ils vont attaquer des villages pour avoir de quoi manger ou de quoi vivre, et donc ça sera difficile.
Et ils vont s'organiser en bande armée.
Ni kusema huko wenye wanaanza kujiingia mwa ile vikundi.
Beaucoup vont devenir pratiquement des voleurs, vont se transformer en bandes armées qui peuvent voler.
Na wengine wanaweza ingia mukazi ya majeshi vile vile. Unaona kama wazee ndio watawakila vile vile tu kwa juu.
Mais il y a d'autres qui vont joindre des groupes armés ou l'armée nationale.
Unaona wapata hivi mtoto anawatia ku mwingine ijapokuwa walikuwa nasema wote.
Donc ça va être compliqué, c'est quand même maintenant là, même l'avenir des enfants est déjà incertain. Tu vois ces enfants qui sont ici, ils devraient être à l'école, mais voilà, ils sont ici, et donc parce qu'ils ne peuvent pas accéder, mais avoir des frais pour payer.
Est-ce qu'il y a des autorités qui viennent vous voir, des gens du gouvernement, des responsables qui viennent vous voir pour discuter avec vous?
Depuis qu'on a fermé ma carrière, hakuna ta député mwenye shafika huku au mwingine.
Depuis qu'on a fermé cette carrière, on n'a jamais vu qui que ce soit.
Wakufika huku kutuangalia au atupatie pole kama.
Même pas les députés, les personnes que nous avons élues pour nous représenter.
Vraiment, hatuone, hatuone.
C'est pour cela que vous voyez un tas de monde venir ici, juste pour attendre cette nouvelle. Et penser qu'on va décider de la réouverture de l'exploitation minière. Et non, donc c'est pour ça que tout le monde est venu ici. Quoi. Oui.
C'est pour ça qu'il y a plein de gars qui nous scrutent, la pelle à la main. Là.
Oui, faut pas vous faire d'illusions, nous on n'a pas le pouvoir. Simplement, nous on a le pouvoir de le faire savoir, c'est tout. On va le faire savoir. Allez, ok.
Ouais, on va y aller parce que la pluie redouble à nouveau et oui. Ça va être une vraie patinoire.
Et faire savoir précisément ceci. Si les pauvres chiaient de l'or, leur cul ne leur appartiendrait plus. Voilà, ce vieux proverbe portugais prend tout son sens quand nous sommes dans un endroit comme celui-ci, à Umuré, dans le massif du Massissi, avec ses creuseurs dans le nord Kivu. Ces creuseurs, combien sont-ils? 50 000, 100 000 à remuer la terre comme des damnés pour en extraire certains minerais, dont le fameux coltan qui est présent dans nos portables et surtout dans celui de Give qui, en arrivant là-bas, en arrivant dans la région, sur le champ de mine, s'est mis à sonner comme s'il retrouvait là son terrain et son terreau originel. 4 milliards de portables dans le monde. Je ne parle que de cette application-là. Évidemment que c'est un marché énorme qui a explosé au début des années 2000 et qui s'est répercuté ici, dans cette région, qui était déjà une région en proie à des luttes armées, à des guerres terribles. Et donc les deux choses se sont multipliées pour aboutir à un contrôle complet de cette exploitation par les groupes armés qui se tirent dessus entre eux pour s'accaparer certains secteurs, pour se disputer les secteurs, et ensuite pour exploiter ces gens qui sont avec nous, avec lesquels nous sommes plutôt, ces creuseurs. Sauf que lorsque nous sommes arrivés, l'activité a été suspendue, c'était une décision gouvernementale qui peut s'interpréter de façon tout à fait différente, mais qui laisse un peu perplexe. Le but, ce serait justement de couper les groupes armés de leur source d'approvisionnement. Parce que les minerais, notamment ici le coltan, est à la fois le but et le moyen du conflit. Beaucoup, beaucoup de morts à cause de cela. Et puis les conditions des creuseurs, et puis les conditions des transporteurs, des transporteuses. On a vu les femmes hier qui portent 30 kilos sur les reins, sur 50 kilomètres pour $1 par jour. Pas d'autres ressources que ça, ressources de boulot dans la région. Aucun autre moyen de vivre, d'où une tension et d'où une pression et d'où cette malédiction de la richesse naturelle. Si les pauvres chiaient de l'or, leur cul ne leur appartiendrait plus. Si jamais ça vous arrive, surtout ne le dites à personne, ne le criez pas sur les toits, faites gaffe à vos fesses parce que aussitôt, ce serait la ruée vers l'or, ce serait le massacre des Indiens, ce serait la colonisation, la mission civilisatrice, la torture et le goupillon. C'est ce qui est arrivé dans toutes les régions, pas seulement les minerais, mais le pétrole, l'EVA, le bois, le gaz. Et un jour, ce sera, pour ce qui concerne le Congo, ce sera l'eau probablement. Le Congo, quatre fois grand comme la France, est une réserve d'eau énorme. On sait bien qu'après l'or gris, qu'est le coltan, la prochaine étape, le prochain cycle, ce sera l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, et probablement qu'à ce moment-là, le Congo se transformera, c'est bien possible, en désert. On dit que Dieu a jeté ses trésors sur la terre, mais lorsqu'il est arrivé sur le Congo, il a lâché son sac. Eh bien, il a lâché son sac, et ça a été une calamité. Tous ceux qui viennent de l'extérieur s'enrichissent sur le Congo. Des élites s'enrichissent, mais il n'y a aucune espèce de retombée. C'est une économie primaire, c'est l'économie induite, créée par la colonisation, et ça n'a pas changé depuis. Depuis 1880, eh bien, c'est la même histoire qui se reproduit pour des peuples qui sont d'année en année, j'allais dire, et qui n'arrivent pas à échapper à cette damnation de la richesse naturelle. Mais on va essayer aujourd'hui d'établir le lien entre cette misère de cette région et nous. Non pas pour nous culpabiliser, non pas pour se sentir mal à l'aise avec nos portables, mais pour essayer de montrer qu'il y a une dépendance, qu'il y a un détriment d'un point à un autre, de ce son de portable dans ce paysage à ceux qui nous regardent nous éloigner et à qui on a juste pu dire on fera savoir que si les pauvres chiaient de l'or, leur cul ne leur appartiendrait plus.
Allô, 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 téléphone.
Oui.
Allô, 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 téléphone.
Oui.
Et où t'es là, Lola? Tobongo la mité, maman, colé, cozonga, colo, yusu, babu, yungu, la bisona, mou, yungu, le baya, ya.
Eh, 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 babu, yungu, la bisona, mou, yungu, le.
Je suis dérangé, vous les enfants t'étaient chassés de l'école aujourd'hui. Allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je peux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays.
Allô, allô,
venga téléphone,
c'est résolu.
La nuit, la journée,
allô, allô.
Téléphone, appelez les amis.
Allô, allô.
Téléphone, pour donner des nouvelles.
Allô, allô.
Téléphone,
s'excuser
dans retard.
Allô, allô.
Téléphone, annuler rendez-vous.
Allô, allô.
Téléphone, demander renseignements.
Allô, allô.
Téléphone, mais téléphone et tu m'as déçu. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne cesses de causer au pays. Je suis un Massina, on m'appelle. Je réponds, je suis à l'Emba, tout ça pour cacher vérité. Les enfants pas manger, je préfère acheter 4 pour appeler copains, toutes mes économies envolées. Je suis endetté, oh, on m'appelle, je change de voie, la vie pour moi.
moi est vraiment devenu difficile.
Allô, allô,
téléphone, même dans l'église,
allô,
tu as fait des dégâts.
C'est
les pasteurs sur la chaîne,
allô,
message
allô,
arrêté,
le
soeur en prière,
allô,
la moindre sonnerie,
coupé.
Téléphone,
allô,
tu causes des dégâts.
Sur la chaussée,
chauffeur au volant,
allô,
attention
allô,
détourné,
c'est
élève en classe,
allô,
attention
allô,
détourné,
ajournement.
Alors qu'est-ce que vous allez faire? Si ça continue comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous préparez?
C'est mourir.
Ben non, vous n'allez pas mourir quand même.
Nous allons mourir au plus que nous manquons à coiffer.
Saison des pluies, vous entendez, et on est avec ces creuseurs dans ce petit hameau, entre le hameau et le bidonville, à côté de cette carrière où ils exploitent en principe le coltan. Ils sont quelques centaines tous les jours à creuser dans la colline, dans la montagne, pour extraire ce qui nous semble à nous de loin de la terre, mais qui va être ensuite trié, lavé, et puis jusqu'à extraire soit des petites paillettes très dures, soit des petites, comme des petits cailloux très durs, et qui sont ce minerai si recherché. Sauf que là, eh bien, toute l'activité est suspendue. Alors toutes les rumeurs vont bon train. Il y a ceux qui se réjouissent de ça, certains observateurs comme ceux de Global Witness, qui est une ONG compétente sur la question, mais qui milite pour de l'éthique, pour du durable, pour toutes ces choses-là qui sont très belles, mais qui ne font pas du tout le bonheur des gens qui sont là, des creuseurs qui, eux, mangent tous les jours et ont des enfants qui mangent tous les jours et qui, depuis pas mal de jours, n'ont plus de boulot à cause de la suspension de cette activité qui, encore une fois, dit-on, a pour projet de couper les groupes armés de leurs sources de financement, mais qui pourrait bien être aussi le début d'un changement radical dans la région au profit des multinationales et d'entreprises qui seraient plus efficaces, évidemment, que ces creuseurs. Il faut bien imaginer que ce sont des gens qui travaillent avec une barre à mine, un marteau, une sorte de maillet et une pelle pour tout outil. Et puis après, on met ça dans des sacs de récupération et on porte ça sur son dos. Il est évident que dès qu'on arrive avec quelques pelleteuses, quelques engins, on est beaucoup plus efficace, c'est évident, mais à ce moment-là, ça fait beaucoup moins de boulot. Ça aussi, c'est très très clair. Et il semblerait bien que ce soit ce qui est en train de se passer et qui est évidemment redouté par les hommes avec lesquels nous nous trouvons.
Nous sommes des chômés.
Mais vous allez vous battre.
Nous n'allons pas nous battre puisque nous n'avons pas cette capacité. Nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des virages.
Ici quand on se bat, ce n'est pas de la lutte sociale, quoi. On se bat avec des kalachnikovs.
Ah oui, quand on dit la lutte, quand on dit la bataille, quand on dit la guerre.
Hein. Notre souhait est d'aller vraiment nous supplier, notre président, d'ouvrir les travaux.
Et pourquoi est-ce que le président fait ça, d'après vous?
Nous ne savons pas ce qu'il a fait.
Parce que nous, on nous dit que c'est peut-être pour installer des usines, des grosses usines ici. On vous a dit ça déjà?
Non, on ne connaît pas ça.
Si le président amène des usines ici, nous pouvons nous féliciter.
Oui. Si nous travaillons, nous amenons des usines, nous serons vraiment, nous allons bénéficier puisque les usines nous approchent. Nous voulons à ce qu'on élève notre salaire.
Mais quand on dit qu'on va amener des machines, ça signifie qu'on va employer très peu de gens.
Si on amène des grosses machines, on va employer moins de gens.
Eh, c'est risquant encore. Nous aurons encore beaucoup de chômage.
Bah oui.
Beaucoup de chômeurs.
Ça, ça ne coûte pas tout ce qu'on a heri. Par exemple, quoi, tu n'as plus qu'à voir quoi, n'as jamais aimé. Mal 20, mal 15, président a fongula, tu n'as plus qu'à les dates, tu n'as fait qu'à pas, tu n'as fait qu'à wazungu, tu n'as fait qu'à pas. Si c'est ça, tu n'as tout qu'à monane, que tu engages comme wazungu, on a plus à fongula. Je tenais qui me a acheté, tu n'as fait qu'à pas pour ma carrière, n'as fait.
Lorsqu'on avait suspendu l'exploitation de matières premières ici, on nous avait dit qu'entre le 20 et le 30 octobre, on devrait lever la mesure de suspension. Mmh. Et depuis lors, nous ne faisons que tournoyer ici, voir ce qui se passe. Et tout le village est très content aujourd'hui. quand ils vous voient ici, ils pensent que vous venez pour lever la suspension de l'exploitation minière ici. Ah, et c'est pour cela que tout le monde attend exactement savoir ce qui va se passer à partir de votre arrivée.
Nous, on vient pas lever la mesure, on n'a pas ce pouvoir-là. On vient simplement vous écouter et puis faire savoir ce qui vous arrive. Mais on n'a pas les moyens de remettre les mines du Congo en route, nous, quand même. Non, si ? Non, non.
Non, mais on aimerait bien, évidemment, avoir ce pouvoir et cette compétence. La réalité, c'est que ces creuseurs n'ont que ça comme activité. Une activité rurale, paysanne, mais uniquement de survie, même si la terre est incroyablement fertile. Dans cette région volcanique, c'est une belle terre noire, et vous entendez, il pleut beaucoup. Et évidemment, c'est très fertile. Mais pour organiser une production agricole dans la région, on sait ce qui se passera, ce qui se passerait. C'est pour revenir à une production agricole, d'ailleurs, qui existait avant l'activité minière. Mais on sait très bien qu'avec l'ouverture des marchés et la concurrence mondialisée, il y a toutes les chances du monde pour que les producteurs agricoles, les paysans du coin n'aient justement aucune chance par rapport à la concurrence mondiale, et notamment avec les produits venant du Nord et qui sont subventionnés, eux. Qui sont bel et bien subventionnés et qui ne peuvent pas concurrencer localement. D'où la nécessité, mais ça on en parlera peut-être à un autre moment, de protectionnisme ou de protection de ces productions-là. Il n'en est pas question du tout au niveau de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, qui ont, on le verra, un pouvoir évidemment considérable sur la destinée de ces pays et de ces gens-là.
Normalement, un creuseur comme vous, combien vous gagnez par jour quand tout va bien ?
On peut gagner 5 dollars.
5 dollars, c'est une bonne journée ?
Oui, une bonne journée, 5 dollars.
Ouais. Pour combien d'heures de travail ?
Pour 10 heures de travail. C'est trop mal, c'est trop peu. C'est trop peu. Après avoir creusé ce minerai, on le met quelque part, et puis les négociants viennent de Goma, ils viennent acheter ici. Et puis... on transporte vers Goma.
Mais les négociants, ils viennent à Rubaya.
Oui, ils viennent à Rubaya.
Ah oui. Et comment tu le transportes d'ici à Rubaya ?
Sur la tête.
Sur la tête ?
Oui. 50 kilos, on donne 1000 francs.
1000 francs ?
Un dollar.
Oui.
Pour mettre un sac de 50 kilos sur sa tête jusqu'à
Rubaya.
Jusqu'à Rubaya. C'est un dollar. On vient de faire le trajet en moto. Et à pied ?
C'est à pied.
Moi, j'ai de la boue jusqu'aux genoux.
C'est à pied.
Eh, les gars, celui-là, il ne gagne pas grand-chose, hein, le porteur, là.
Oui, vraiment.
Combien de temps tu mets pour aller à Rubaya avec tes 50 kilos sur la tête ?
3 heures du temps.
3 heures pour aller et pour revenir aussi ?
Oui.
Et après, tu reviens à pied ?
Oui, tu reviens à pied. Ouais, ce qu'on vous a donné, un dollar qu'on vous a donné, ne peut pas vous faire parcourir en moto.
Ah oui, c'est pas assez pour payer le retour en moto, ce que tu as gagné à pied. Voilà.
On a dit beaucoup de mal de Philippe Val, mais au moins Philippe Val a déclaré une chose très vraie, c'est que lui, il a renoncé au reportage. On ne sait pas très bien s'il en a fait beaucoup, mais en tous les cas, il y a renoncé. Pourquoi ? Parce qu'on perd beaucoup de temps en voyage. Et il a raison, parce qu'on perd beaucoup de temps en déplacement dans un reportage.
Et là, on en a un exemple. On est dans le Massissi, au nord du Kivu, à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et le paysage est magnifique. On ne peut pas dire que le paysage est absolument magnifique, verdoyant. Là, on est au milieu des eucalyptus odoriférants. On croise des paysans heureux de porter des charges de légumes, de fruits, de manioc, de canne à sucre, enfin de toutes sortes de choses qui poussent en abondance dans cette région. Mais enfin, le voyage est un petit peu lent. Pourquoi ? Parce que tous les 50 mètres, il a beaucoup plu, c'est de la terre, il faut bien avouer les choses. Et bien voilà, il y a eu des éboulements à la suite de fortes pluies et la piste sur laquelle nous sommes est bouchée très régulièrement par des chutes d'arbres, par des éboulements, par des glissements de terrain. Et là, ça fait déjà 3 ou 4 fois que le 4x4 dans lequel nous sommes avec nos amis de la coopérative des mineurs de Oumoulé, qui nous accompagnent, sont obligés de creuser dans le chemin avec une pelle. Alors, on n'est pas arrivé, il y a encore une vingtaine de kilomètres. Alors, une vingtaine de kilomètres, ça peut faire 2 heures. On doit faire un reportage. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, comme toujours dans un reportage, mais on se fait du souci quand même pour le retour. Il y a de fortes chances qu'il pleuve, comme tous les jours dans l'après-midi, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et il y a le retour. Voilà, alors on ne sait pas très bien, parce que la nuit tombe tôt ici, et il y a quand même assez peu de chances qu'on rentre ce soir. Hop là, voilà, la grosse pierre qui descend dans la...
Ah ouais,
dans la colline.
J'espère qu'il n'y a personne en dessous.
Ah non. Enfin, tout ça, c'est pour dire que ça s'appelle les tribulations du reportage. Et il arrive, il nous est arrivé assez souvent, depuis une vingtaine d'années, que parfois une minute qu'on entend à l'antenne, 5 minutes, ou parfois rien du tout, eh ben, nous écoutait ça. Nous écoutait les heures de tape-cul, de galères, de bagnoles prises dans la boue, de pousser des bagnoles, de tirer des bagnoles. Mais on est très heureux de faire ça depuis si longtemps. Voilà, c'est ça la bêtise des reporters que nous sommes. Alors là, on s'est arrêté au bord de la route. On s'est mis à l'abri des coups de vent dans un petit village.
Voilà. Mais le village ici s'appelle Karuba.
Alors c'est un bar-restaurant. Effectivement, il y a une planche là qui fait tout à fait comme un bar. Et restaurant, ben, on va voir. Ben, on nous apporte déjà, il y a une très jolie jeune fille qui nous apporte des gamelles avec des choses dedans. Et puis, il y a des gros sacs tout autour de nous, qui sont des sacs de haricots. Et ça, c'est les paysans du coin qui amènent les haricots. Et la dame ici qui tient ce petit restaurant, c'est une négociante.
C'est une négociante, c'est-à-dire elle a acheté tout ce sac que vous voyez des haricots auprès des paysans. Et maintenant, là, elle va amener à Goma dans des grands dépôts où les gens pourront venir de tous les coins.
Voilà. Et c'est exactement comme le coltan, comme la cassiterite, un chef.
C'est pratiquement la même chose parce que pour arriver ces haricots ici dans les sacs et les mettre dans un camion et amener à Goma, il doit payer des taxes. De la même chose que nous aussi quand nous voulons mettre des castérites dans des camions ou dans les véhicules avant de charger le camion ou la voiture, nous devons aussi payer des taxes.
Alors, là on est en train de se laver les mains avant le déjeuner. Parce que comme on mange beaucoup avec ses mains ici, il faut que les mains soient propres. Alors, je vais poser mon micro. Et on va pas mourir de faim. Hein. On les amène des pleines assiettes de patates, de viande. Allez, bon appétit. Comment on dit bon appétit ?
Bon appétit, Yuergwe.
Yuergwe. Bon appétit. Bon appétit.
Abanga bagalwa musula muti ebiro bino nze nange kyaliyo namugereka takumira mpeera kyakumma. Abanga bagalwa musula muti ebiro bino nze nange kyaliyo namugereka takumira mpeera kyakumma. Wabadde tamanyi enze Benard Kabanda Salongo mwagalwa chana chamboke eri esenge eddira mbogo akabiro ndirwe ndi muzukulu wa Semitego wamenyanzi ndi muzukulu wa Kayira wane muguru ndi mutabani wa senta mwe maddu wane gomba wamambaragirira Atenga bibi no bisuza bubisi kebaka Salongo binje kijja Mubiza binuma bigambo byaba fiti nyimba lyaba wala nyitala Gamba abafiti nyabo Na yaba fiti nyimba fiti ne Na baba wala nyimba wala ne Olwange lwagulwa mwatute lwagalwa namugereka takumira mpeera ye yalugula Atenga lwagulwa sebu wange
Alors là, tu nous as arrêtés. La nuit descend, mais c'est vrai qu'on est devant un champ de lave. Là, face à nous, pour ceux qui connaissent le nord de la France, on se dirait à Lens, au pied d'un terril avec du charbon qui serait répandu. C'est pas du charbon du tout. Notre œil à nous n'arrive pas à s'y faire. C'est de la lave refroidie. Et là, on n'a pas reconstruit dessus.
Non, on n'a pas reconstruit dessus, mais je pense qu'on va reconstruire. Mais je vous ai amené ici parce que, en fait, derrière ce bosquet, c'est là où la terre s'est ouverte et la lave qui a brûlé la ville de Goma. Donc, la lave que vous voyez ici, en fait, sortait derrière de ce bosquet ici.
Ah. Voilà, nous revoilà avec Aloïs Teguera à Goma. Retour à Goma, curieux, certaines rues de Goma, on a l'impression de marcher sur une sorte de bitume qui serait plissé comme une vieille peau, comme ça on dit, tiens, c'est curieux le sol, le bitume ici, mais c'est pas du bitume du tout, c'est de la lave refroidie, et ça donne ces rues étonnantes, cette ambiance étonnante dans cette ville. On a beaucoup parlé du lien entre les groupes armés, la violence extrême, la mort et le coltan, ce minerai indispensable présent dans nos portables. On a fait des tas de reportages dans le passé, des tas de rapports, des tas de toutes sortes pour condamner ce lien entre le sang et le portable, du sang dans mon portable, etc. Si bien que des grands opérateurs, des grands raffineurs, comme des grandes entreprises comme Cabot, par exemple, qui est une grande entreprise américaine, ou Star, qui est une grande entreprise allemande, une filiale de la multinationale Bayer, ont refusé d'acheter le coltan du Congo. Ah non, on ne touche pas à ça. Bravo. Sauf que, si on regarde un peu de plus près, eh bien, les intermédiaires se sont multipliés pour camoufler les vraies sources. Mais le coltan trouve toujours preneur, passant par le Rwanda ou par l'Afrique du Sud. Il transite par le port de Dar es Salaam, où il est transporté par une entreprise bien connue qui s'appelle Bolloré à travers la Tanzanie à destination eh bien, de l'Europe, de la Belgique par exemple, ou du Kazakhstan, ou dans d'autres centres de raffinage, ou éventuellement en Asie, ou dans une des filiales de ces grands raffineurs occidentaux. Filiale, pas directement chez les raffineurs, mais finalement, le coltan du Congo
tel que vous comprenez les conditions dans lesquelles il est extrait, eh bien, arrive bel et bien dans ces entreprises, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, malgré toutes les prétentions à l'éthique et malgré toutes les menaces d'embargo. On est avec Aloïs Teguera, qui est un chercheur d'une ONG qui s'appelle Polé.
Ce qui est frappant, Aloïs, quand on arrive, là j'entends les gosses qui disent Muzungu, Muzungu derrière la fenêtre de la voiture. Et ce qui est frappant quand même quand on arrive dans cette ville qui est la vôtre, hein, mais qui est une ville quand même vachement pauvre, avec des gens très très pauvres qui se battent pour survivre dans cette absence totale de règles et d'État. Ce qui est très frappant, c'est les villas très luxueuses. On voit des grandes villas avec des doubles tennis, piscines, etc. C'est quand même...
Les populations qui ont plus de chances d'avoir accès aux ressources, effectivement, ils se construisent des maisons, il faut la fortune. C'est vrai pour Goma, c'est vrai pour chaque ville du Congo. La plupart, c'est déjà qui sont soit à la douane, soit dans la politique, etc. Et où, effectivement, c'est
dans
déjà...
Dans l'armée, dans la police, partout voilà, on peut taxer.
Voilà. Et c'est ce monde-là qui a un morceau de ce qu'on peut appeler de l'État et qui utilise ce morceau d'État pour pouvoir s'enrichir, et c'est ce qui se passe.
Mais voilà. on a aussi quand même des humanitaires qui remplacent l'État, hein, qui se substituent à l'État, la MONUSCO également, hein, les Nations Unies qui se substituent à l'État, effectivement. Ce qui fait que l'État n'a pas lieu de se constituer puisqu'il y a organisation non gouvernementale, c'est effectivement, organisation qui empêche la formation d'un véritable gouvernement, d'un véritable État.
Pour le cas du Congo, c'est ça aujourd'hui.
Oui,
effectivement.
Au fond, si Frantz Fanon revenait, il verrait là sans doute une forme nouvelle du colonialisme.
Je vais vous donner un exemple pour un peu appuyer ce que je viens de dire. Parce que sinon, on peut dire que nous sommes un peu cyniques, parce que, etc. Ils sont en train de faire du bon travail, d'accord. Un, c'est eux qui peuvent assurer le transport interne entre les villes. C'est eux qui ont les avions pour le faire. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas des individus. En même temps, c'est eux qui quadrillent militairement la zone qu'ils contrôlent. Mais en même temps aussi, c'est eux qui donnent les orientations politiques, les orientations sécuritaires au niveau national. Donc, dans ce sens-là, ils ont un pouvoir énorme. De là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir l'émergence d'un gouvernement local pensé, concerté, inventé et forgé par les locaux face à un tel pouvoir externe? Ça, je ne pense pas, effectivement.
Il faudrait introduire, si ce n'est déjà fait, la notion de crime économique. Parce que dans ces... Il y a le crime contre l'humanité. D'ailleurs, le crime contre l'humanité est une expression qui a été inventée par un voyageur, un observateur venu au Congo à la fin du 19e siècle, qui s'appelait George Washington Williams, qui était un noir américain et qui était venu voir ce qui se passait là avec un préavis plutôt favorable. Mais quand il a vu ce qu'il a vu et ressenti ce qu'il a ressenti, il a eu ce mot, il s'agit d'un crime contre l'humanité. On lui attribue la création de cette expression. Mais aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il s'agissait d'un crime contre l'humanité de nature économique. Il y a quelque chose, et si on établit cette notion, qui peut avoir une dimension tout à fait juridique, alors il faudra impliquer les multinationales, les grandes entreprises, les grandes filières, et non pas seulement les petits délinquants locaux, qui sont des assassins, bien évidemment, mais c'est toute une filière. Et c'est pas mal d'aller vers cette notion, pas seulement le crime contre l'humanité au sens militaire, au sens violent, mais aussi au sens économique du terme.
Est-ce que l'exploitation minière favorise les groupes armés? Est-ce que les groupes armés continueraient d'exister et d'agir sans les bénéfices qu'ils tirent de l'exploitation minière, sans l'argent que ça leur apporte pour leur fonctionnement?
D'abord, ici, le Nord Kivu, on n'a jamais été une zone minière en tant que telle. La zone minière, c'était le Katanga, c'était le Kasai, c'était quelques régions de l'or dans le Maniema, dans le Ituri, mais nous n'étions pas une province à vocation minière du tout. On était beaucoup plus une province qui faisait de l'élevage, de l'agriculture. Donc, le phénomène des mines commence effectivement dans la deuxième rébellion du RCD, autour de 2000, avec le boom du coltan. Et c'est à ce moment-là que les mines ont commencé à jouer un rôle important ici dans la ville de Goma. Mais avant, non, avant, ce n'était pas une ville minière. Maintenant, la rébellion qui était basée ici a commencé effectivement à maximiser ses recettes en essayant de s'impliquer dans les minerais et dans l'exploitation d'abord et puis la commercialisation. De là, peut-on tirer maintenant la leçon ou bien la conclusion en disant « Écoute, maintenant, s'il y a encore les guerres ici à l'est du Congo, c'est à cause des minerais ?» Moi, je dirais que c'est une analyse simpliste parce que les causes de la guerre ici n'ont rien à faire avec les ressources naturelles. Les causes de la guerre ici ont quelque chose de réel. Au cœur du bourbier congolais, il y a l'absence d'un État réel capable de faire la régulation, capable de donner le droit à tous les citoyens, capable de donner les services, capable de faire son job comme un État. C'est ça le problème du Congo. Je pense que le Congo a été imaginé comme le premier marché libéral d'Afrique centrale. Ouais, ouais. Et dans ce sens-là, le statut du Congo, c'était cet espace où les gens pouvaient venir faire des affaires et sortir et repartir.
Se servir, quoi.
Voilà. Et c'est comme ça que c'était pensé dès le départ. Et malheureusement, on ne s'est jamais affranchi de ce statut originel. Nous sommes toujours vus comme un espace où chacun peut venir faire des affaires, et notamment en profitant d'une élite corrompue qui accepte facilement l'entrée de n'importe qui et de n'importe quoi, faire n'importe quoi sans régulation, sans rien du tout, et puis on sort. Donc le Congo est toujours considéré comme un espace pour les affaires.
Et donc c'est un peu l'avant-garde du néolibéralisme, quoi.
Voilà.
Goma, le Congo, comme ce qui nous attend dans le monde si le néolibéralisme continue de progresser.
Ben écoute, avec le seul handicap majeur, que effectivement, on veut le néolibéralisme, c'est une chose, mais ici, il est mis sur un vide terrible de non-État. Et ça, c'est plus difficile parce que chaque marché doit être régulé. Et à l'absence d'un État solide pour réguler le marché, effectivement, ça produit ce que vous voyez ici, un chaos total.
C'est-à-dire l'absence totale de services publics, par exemple?
L'absence totale de services publics, l'absence totale du monopole, même de la violence, qui doit protéger les populations et les biens. On a tout le monde qui s'est débrouillé comme il peut. Donc vous avez en fait une sorte de prise en charge par les populations elles-mêmes, mais en définitive, ça devient carrément des zones franches de nos droits pour tout le monde.
Oui, enfin, sauf pour les plus forts.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort, tout simplement. L'État ne remplit pas sa fonction, ce que Pierre Bourdieu appelait la main gauche de l'État, celle qui redistribue et celle qui protège. Ici, les Congolais n'en profitent pas parce que l'État est inexistant et c'est donc la loi du plus fort.
Et là, pendant qu'on dit ça, on est en train de passer le long de la base de l'ONU tenue par le bataillon uruguayen.
Oui. Ouais. Mais ce qu'il y a, effectivement, il y a ces parasites, il y a ces prédations, il y a ce néo-néocolonialisme, et puis il y a tous ceux qui à l'extérieur profitent de ce pays, et ça c'est très actuel, c'est la globalisation.
J'ai même un soupçon aujourd'hui qu'un Congo faible, un Congo non organisé, arrange tout le monde.
Ouais.
Parce que ceci oblige le Congo de rester cet espace d'ambition, mais cet espace de rêve, et cet espace où on peut venir se servir et repartir. Et ça, je pense qu'effectivement, un Congo beaucoup plus fort, beaucoup plus organisé, j'ai l'impression que personne n'en veut pour le moment. Donc, si vous voulez, nous sommes au cœur d'un monde des opportunités, mais en fait, les opportunités sans régulation, finalement, ça ne profite qu'à une poignée de personnes.
C'est ça. On le savait, mais là, on l'a en vrai. On l'a en musique, on l'a dans la rue, on l'a dans les spectacles de la rue, on l'a dans cette fièvre et dans cette injustice énorme quand même. Hein. Il y a quand même une misère, une pauvreté terrible dans ce pays à côté d'une richesse arrogante. Effectivement, l'espoir, c'est sans doute cette énergie incroyable.
Le dynamisme de la population, je pense aussi qu'il y a quand même un correctif à faire. Pendant très longtemps, moi-même, je suis tombé dans le panneau parce que je disais, écoute, au Congo, l'article 15, débrouillez-vous, les gens se débrouillent, etc. Mais en fait, depuis les 15 dernières années que je viens de passer ici, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, une population pour survivre, ils ont besoin d'un minimum d'État. Je ne dis même pas un État de droit, un minimum d'État, parce que la vie dans un non-État, c'est vraiment l'enfer.
Un petit sujet de réflexion pour ceux qui ont la destruction, la disparition de l'État comme horizon politique. Merci à tous. Merci à Aloïs Teguera, avec qui nous étions à l'instant. Merci à Bazinga, Jacques Caora, Toto le chauffeur et à tous ceux de la coopérative de la mine d'Oumouré. C'était un reportage avec Guy Vanctil, montage Mathias Barré et Agnès Lebode. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse où j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter comme toute la série sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Gaël Braouzek, Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte. Et Marina Touillez attend vos messages au répondeur de La Basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Les arts de la table.
Oh, quelle soirée, hein. Ouais. Elle sait recevoir, hein, chérie. Ouais. Ses coussins, dernier cri, ouais. Ses brocolis au miel. T'as aimé, toi, ouais. Sa petite jupe noire. Ouais. Tout est tellement in chez Jacqueline.
Ouais, t'as vu sa vaisselle?
Ah, c'est sûr, sa vaisselle, ça calme, hein, forcément.
Voilà.
Les arts de la table.
Comme la mode, c'est bien quand ça change.
Voilà, il va être 16h sur Inter. Et pour le 24 décembre, on vous prépare une petite séquence musicale avec un groupe formidable de Lumbumbashi qui s'appelle les Jicoquets. J'espère que, comme nous, ils vous plairont et le feront danser ce soir-là. 16h sur Inter, à demain, 15h, pour la suite du voyage. Je vous laisse pour les infos avec Olivier Bois. Salut.
Et d'abord, on vient de l'apprendre, Météo France lance une vigilance orange neige à partir de demain midi sur les quatre départements de la Lorraine, sur les Ardennes, dans la Marne également et dans la Haute-Marne. On attend là-bas 5 à 10 cm de neige. La SNCF prévoit déjà des ralentissements ce week-end dans l'Est et en Rhône-Alpes également. La vitesse des trains pourrait être réduite. Autre conséquence du froid, si vous habitez en Bretagne, essayez de limiter au maximum votre consommation d'électricité à partir de 17h jusqu'à 20h. On va atteindre un record de consommation et la Bretagne est la région la plus fragile. Pour le reste, tout devrait bien se passer. Cette information France Inter maintenant qu'on vous révélait tout à l'heure à 15h. L'ancien garde des Sceaux, Albin Chalandon, est en garde à vue depuis hier dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Visionex, du nom de ces bornes internet qui auraient été en fait trafiquées pour devenir des jeux d'argent. Le fils de l'ancien garde des Sceaux, justement Fabien Chalandon, serait en première ligne. En tout cas, il est mis en examen dans cette affaire. Le gouvernement désavoué à l'Assemblée par une partie de ses troupes et en plus sur un dossier très sensible, la réforme de la garde à vue. En commission des lois, deux amendements ont été votés aujourd'hui. L'un qui donnerait au juge des libertés indépendant la responsabilité de la garde à vue. Jusque-là, c'était le parquet qui s'occupait de ça, le parquet qui est placé sous l'autorité du gouvernement. L'autre amendement remet en cause le concept d'audition libre voulu à l'époque par Michel Alliomari qui était garde des Sceaux et qui est en quelque sorte une garde à vue allégé de quelques heures pour les délits mineurs et qui, dans le texte du gouvernement, se faisait sans avocat. On va voir maintenant évidemment ce qu'en dit le ministre de la Justice. Nouveau braquage cet après-midi dans l'Oise. C'est un camion Chanel qui a été pris pour cible. Le chauffeur a été séquestré. Les malfaiteurs sont repartis avec tout le chargement. On n'en connaît pas encore la valeur. En Seine-Saint-Denis, vous savez que deux banques ont été attaquées hier soir et ce matin. Les deux établissements sont situés là, en Seine-Saint-Denis. Le braquage d'hier soir a été particulièrement violent. Les malfaiteurs avaient fait sauter la façade de l'établissement. Ils avaient tiré ensuite sur la police pour s'enfuir. Brice Hortefeux s'est rendu sur place. Sécuriser la Seine-Saint-Denis est affiché comme une priorité pour lui. Claude Bartolone, le président du département, lui a réclamé ce matin plus de moyens. Eh bien, le ministre de l'Intérieur lui a répondu en parlant de solutions de facilité. Marine Le Pen, qui parle d'occupation quand elle évoque des musulmans qui prient dans la rue, les propos avaient fait scandale à la fin de la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, Benoît Hamon, Macron, porte-parole du PS, estime lui aussi que cette situation n'est pas tolérable beaucoup plus longtemps. Mais lui, au nom de convictions laïques, il veut une négociation et trouver des solutions pour que ces musulmans trouvent des lieux de prière. Actuellement, il n'y a pas assez de place dans les mosquées en France. Le ton monte en Côte d'Ivoire. L'armée pro-Gbagbo prévient. Elle tiendra l'ONU pour responsable en cas de violence demain à Abidjan. La journée est à haut risque. Alassane Ouattara, président élu il y a 2 semaines, appelle ses partisans à marcher vers la télévision d'État contrôlée par Laurent Gbagbo, qui s'accroche, lui, au pouvoir malgré sa défaite manifeste. Et puis Eric Fotorino n'est plus le patron du Monde. Il a été démis de ses fonctions de président du directoire. Son remplaçant n'est pas encore connu. Il y a quelques jours, il avait publié une lettre dans laquelle il se plaignait d'être harcelé par les nouveaux actionnaires du journal.
Tous les dimanches, à 20h10, le masque et la plume, Jérôme Garcin.
On va y venir.
C'est un petit peu ça, quoi.
Littérature.
Non. Comme il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de petits points de suspension.
Cinéma.
Moi, je trouve que vous avez tort.
Théâtre.
J'ai trouvé, merci.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume,
écrivez vos emails.
Non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon, Carrefour de Lodéon.
Carrefour de Lodéon.
Bonjour à tous, voici une émission dédiée à la musique de chambre, mais alors quel type de chambre me direz-vous? Parce qu'il y en a de plus ou moins grandes. Quand on entend une sonate jouée au violoncelle, ça va, s'il y a un clavier à côté ça peut aller aussi, mais si le clavier est un orgue, on peut se demander dans quelle chambre un orgue peut entrer. Mais il y a aussi différents types d'orgues gigantesques, Cavaillé-Coll, l'orgue de la Madeleine ou autres, des cathédrales allemandes, des petits orgues portatifs. Bon, évidemment la musique de chambre c'est assez vague. En tout cas, Jean-Sébastien Bach a écrit sa 2e sonate pour viol de gambe, on va l'entendre jouer là au violoncelle. Et puis il y a un orgue qui paraît assez modeste, assez discret pour entrer dans une chambre de proportions tout de même respectables. Thank you. Allegro de la deuxième sonate pour viol de gambe et clavier de Jean-Sébastien Bach. Et cette très belle conversation était menée par Anner Belsma, violoncelle piccolo à cinq cordes, et Bob van Asperen qui joue un orgue qui a été fabriqué récemment à Utrecht en 1985. C'est très récent pour un orgue, c'est un orgue à bahut, donc pas une énorme machine, bien sûr. Quand Mozart écrit une sonate pour violon et piano, c'est encore de la musique de chambre, mais le piano de Mozart, on pouvait le transporter très facilement. Deux personnes pas très costaudes pouvaient éventuellement porter l'instrument d'une salle à l'autre, et Mozart usait de ce moyen très facilement, très volontiers, pour pouvoir donner des académies, des concerts, comme on pouvait les donner à cette époque-là pour gagner sa vie. Il n'avait pas de transporteur dédié, il n'y avait pas de gros camion qui arrivait devant la salle pour débarquer un instrument de plusieurs centaines de kilos. Non, c'était très léger. Aujourd'hui, quand on dit musique de chambre et qu'on voit les grands pianos à queue...